Critique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 6 février 90.
Vous avez commencé le cours de critique. Alors on continue. C'est encore une introduction. Donc suite à l'introduction. Comment la critique est-elle une partie de la philosophie ? La logique. Au sens strict, ils ne sont pas la philosophie, mais ils sont quand même une partie essentielle de la philosophie. Alors, la critique, c'est une partie réflexive de la philosophie, comme la logique. Quand je dis partie réflexive, ça veut dire justement que l'objet de la critique présuppose la philosophie. Comme la logique présuppose une connaissance humaine. Et la logique va jouer d'une manière toute spéciale en philosophie. Parce que la philosophie doit être la connaissance humaine la plus parfaite. C'est quand même le sommet de la connaissance humaine. Si on va jusqu'à une philosophie qui est une sagesse. Et c'est parce que la philosophie et sagesse, que la critique fait partie essentielle de la philosophie. Le propre de la sagesse, c'est de se critiquer, c'est-à-dire d'être capable d'avoir cette attitude auto-réflexive sur elle-même pour comprendre et justifier son ordre, l'ordre propre qu'elle suit. Le philosophe, dans la mesure où il atteint la sagesse, doit pouvoir justifier à chaque instant toutes ces démarches. Autrement dit, il ne s'appuie pas sur l'autorité de tel ou tel philosophe, à la différence de l'histoire de la philosophie, ou d'une topique historique. L'autorité pour le philosophe, c'est saint Thomas qui dit ça. L'autorité pour le philosophe, c'est la dernière des raisons. Donc quand vous dites saint Thomas dit ça, donc c'est vrai, attention. C'est pas très philosophique. C'est très bien ça, pour votre docilité, saint Thomas. Donc c'est merveilleux. Aristote dit ça, donc, attention, c'est la dernière des raisons philosophiques. Donc c'est votre sycomore. Vous vous appuyez dessus pour aller plus loin, pour avoir un regard de lion. Quand vous n'avez pas encore découvert, vous vous appuyez sur les mers. Et les mettre morts autant que possible, c'est mieux. Et les plus anciens. Donc Aristote, saint Thomas, sont les deux grands maîtres au point de vue de la philosophie. Il n'a pas 36. Hein. Il faut avoir Platon, dans une certaine mesure, c'est un maître. C'est un génie. Hegel, c'est un génie. Vous aide à découvrir la vérité, ceux qui ont cherché la vérité à travers tout. Oui, alors, quand on s'appuie sur un maître, parce qu'on ne sait plus très bien, le terrain est mouvant, on est en face de quelqu'un qui vous objecte d'une façon terrible, telle ou telle chose, vous ne voyez plus très clair, parce que vous êtes encore novice en la philosophie, alors vous appuyez sur Aristote. Mais Aristote dit ça, mais saint Thomas dit ça, donc c'est vrai. Donc ce que tu dis, espèce de novice dans la philosophie, ce que tu dis n'est pas vrai. On verra si dans 2000 ans on parle encore de toi. Tandis qu'Aristote, on parle encore de lui. Et saint Thomas, on continue aussi de parler de lui. Mais on s'appuie sur l'autorité. Mais l'autorité, au plan philosophique, c'est la dernière des raisons. Parce que le philosophe s'appuie sur l'expérience. Et l'expérience, c'est plus que l'autorité en philosophie. C'est pour ça que la philosophie conduit à une autonomie profonde de la pensée. Et cette autonomie n'est parfaite que quand on aboutit à la sagesse. Et alors à ce moment-là, on peut se critiquer soi-même, essayer de rendre raison de la démarche qu'on suit. C'est ce qu'on fera. Et on doit en même temps critiquer les autres. Alors, vous voyez, c'est très vaste, la critique. C'est très, très vaste. C'est pour ça que c'est très intéressant et c'est très vaste. Critiquer les autres pour montrer à quel moment ils ont dévié. Quel est le nœud qu'ils n'ont pas su dépasser. Et puis il y a la critique des sciences aussi. À l'égard de chaque partie de la philosophie, par exemple. Bien montrer la différence entre la philosophie de la matière et la physique. La différence entre la philosophie du vivant et la psychologie. Ou la biologie. Oui, c'est la critique des sciences. Non pas du tout pour dire qu'elles sont mauvaises, mais pour montrer leurs limites. Et l'autocritique de la philosophie, c'est montrer aussi les limites de la philosophie de la matière, de la philosophie de la nature, de la philosophie du vivant, de la philosophie politique, de la philosophie éthique, de la philosophie de l'art. On montre les limites des diverses parties de la philosophie. Et on justifie pourquoi il y a diverses parties de la philosophie. Ce qui est une question extrêmement importante aujourd'hui. Parce qu'au fond, très peu acceptent des parties de la philosophie. Parce qu'on a un développement dialectique. Dans le développement dialectique, les parties de la philosophie ne sont pas du tout vues de la même façon. Donc, voyez comment c'est une partie de la philosophie, parce que la philosophie est sagesse. Donc, elle implique cette réflexion sur elle-même, sur ses propres principes. Elle implique de se justifier elle-même. Et elle implique de regarder ce qu'il y a de juste et ce qu'il y a de pas juste dans les diverses opinions des autres. Ça, vous voyez bien ça, j'espère. Un point de vue plus délicat, c'est la différence entre la critique et la logique. La logique est aussi une partie de la philosophie moins proche que la critique. Parce que la critique est aussi, je veux dire, la logique est aussi un art. Une question très intéressante au plan philosophique, de voir comment la logique est à la fois philosophique, science, philosophique, et puis art. Tandis que la critique, comme telle, n'est que philosophique. Et ce qu'il y a de commun, c'est l'aspect réflexif. Je sais ici la quantité objet matériel. raison formelle des mathématiques, sous la raison formelle de la métaphysique, sous la raison formelle des mathématiques, le divisible, sous la raison philosophique, cette quantité qui existe. Voyez ? Est une raison pratique. Ce poids pèse tant. C'est la quantité. Aussi, alors je prends ce que saint Thomas dit avec beaucoup de précision, la raison formelle de l'objet, de la foi, la vérité première, se révélant. L'objet matériel, tout ce qui est révélé. Abraham était l'époux de Sarah. Hein, c'est révélé. Abraham avait comme esclave Agar. C'est révélé. Agar, ce privilège d'être l'esclave d'Abraham. Et donc, d'être faire partie de la révélation. On parle du cheptel d'Abraham. Le cheptel d'Abraham a l'honneur de faire partie du cortège d'Abraham. Ainsi de suite. On parle de Jacob. On parle d'Ésaü. Tout ce qui est révélé. Des moutons de Jacob rayés de telle manière. On en parle, ça fait partie de l'objet matériel. Et c'est révélé sous le point de vue de la raison formelle, la vérité première se révélant. Donc, vous voyez, bon, on peut parler d'Abraham autrement que dans la révélation. Puisqu'on a des données historiques. Alors on parle d'Abraham sous le point de vue d'une connaissance historique. Et sous le point de vue d'une connaissance historique, je parle d'Abraham. C'est pas la même lumière que la foi. C'est le même bonhomme, au point de vue réel. Mais il est vu sous deux aspects différents. Parce que Abraham, révélé, c'est le père de la foi. Je peux parler d'Adam. Est-ce que je peux parler d'Adam en dehors de la foi ? Est-ce que je peux parler d'Adam scientifiquement, au point de vue historique ? Non. Adam échappe à l'histoire, heureusement. Je ne peux parler d'Adam donc que sous le point de vue de la foi. C'est pour ça que quand un savant parle d'Adam, je dis, vous n'avez pas le droit. Ça n'a pas de sens pour vous. Qu'un savant parle du premier crâne qu'il découvre. Il découvre un os, un crâne. Premier qu'il découvre, le plus ancien. Alors il dit ça, c'est sans doute le premier homme. Mais Adam, ça n'a aucun sens pour le savant. Vous voyez les confusions qu'on fait. Adam n'a de sens que pour le croyant. Parce que tout de suite, pour le croyant, il y a le premier Adam et le second Adam, qui est Jésus-Christ. Oui, alors c'est très important de regarder la raison formelle sous laquelle on regarde telle réalité. Et puis la raison, et puis la réalité prise matériellement. Ce qui est connu, ce par quoi je le connais. Oui, c'est le quo et le quoi. Donc le quoi, ce qui est connu. Ce qui est connu, c'est l'objet matériel. Et la raison sous laquelle je le connais, ce par quoi je le connais, le quoi, c'est la raison formelle de l'objet. Bon, vous voyez bien ça, je crois. Facile à comprendre. Mais c'est très important. Il faut le découvrir vous-même dans une analyse que vous faites quand vous regardez la manière dont vous regardez, par exemple, une opération. un petit peu plus d'habitus intellectuels et votre faim restera et vous en occuperez pas. Parce que vous aurez la soif bien supérieure de la vérité. Et votre soif bien supérieure de la vérité fera que vous serez tout entier tendu vers la vérité et votre faim voudra bien quand ce sera l'heure. Oui. Et au plan de la foi, c'est merveilleux que vous ayez faim. Vous pouvez offrir ça au Seigneur, n'est-ce pas, et faire un transfert. Vous voyez, vous le regardez sous les points de vue différents. Et si vous commencez de confondre ces points de vue différents, ça ne va pas du tout. Si au point de vue psychologique, vous dites, ah, tu n'as qu'à offrir ça au Seigneur. Et l'autre répondra, mais pas du tout. On ne peut pas faire comme ça un transfert. Parce que c'est un transfert. J'aurai des gâteaux dans le ciel. Bon, vous avez compris. c'est pas ce qui spécifie ma connaissance comme l'intentionnalité, mais c'est l'intentionnalité en tant qu'elle est vécue par ma connaissance et dans mes connaissances. Donc, c'est le mode particulier, le mode particulier de mes connaissances qui fait que toute la réalité est portée d'assimiler par ma connaissance. Et je cherche comment cette connaissance peut atteindre la vérité. Donc, vous voyez, les deux impliquent attitude réflexive. Les deux sont liés à la connaissance, puisque le concept est le fruit de la connaissance. Donc, il y a un lieu commun entre la logique et la critique. Mais formellement, c'est distinct. Alors, je vais préciser ce que représente cet être de raison. Qu'est-ce que c'est que l'être de raison ? En critique, je ne regarderai pas ce que c'est que l'être de raison. Oui, je pourrais opposer l'être de raison à l'être réel. C'est d'une certaine manière la critique. Mais la connaissance de l'être de raison, c'est-à-dire la connaissance de cet être de raison qui est universel. Parce que l'être de raison peut être plus vaste que cet être de raison. Cet être particulier qui est l'universel, c'est la logique. Alors qu'est-ce que c'est que l'être de raison ? L'être de raison, c'est ce qui, c'est l'objet qui m'est donné à partir de ma connaissance abstraite. Quand je connais quelque chose, je le transforme et je donne une nouvelle modalité. Et je donne cette modalité particulière que cette réalité est connue d'une manière abstraite. Et parce qu'elle est connue d'une manière abstraite, elle a un mode spécial. Elle a ce mode d'être universel. Blanc, blancheur. Est déjà abstrait. Blancheur, c'est l'abstrait de l'abstrait. Oui. Alors, j'ai une universalité différente de blanc et de blancheur. Tous mes concepts ont un mode particulier d'universalité. C'est vrai, le concept, c'est pas la réalité concrète et individuelle. Le concept, c'est le fruit de mon intelligence. Le fruit de mon intelligence est quelque chose de réel, d'intentionnel. C'est pour ça que le concept, c'est ce qui est connu. Et le concept a un mode d'intentionnalité, une forme intentionnelle. Le concept est une forme intentionnelle. Tandis que l'universel, c'est un être de raison. L'universel n'existe pas en dehors de ma connaissance. La forme intentionnelle aussi n'existe pas en dehors de ma connaissance. Mais la forme intentionnelle a quelque chose de particulier. C'est qu'elle me permet d'être en contact avec le réel que je connais. Oui. On verra ce que c'est que l'intentionnalité en critique, c'est évident. Mais ici, je précise. Le point de vue logique, c'est d'étudier l'universel.
J'ai du mal à comprendre comment on peut dire que c'est l'universel. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt que c'est la relation entre des universaux ?
Non.
Dès que la logique étudie le genre, par exemple,
oui.
C'est une relation.
Oui, mais le genre est un universel. J'étudie le genre lui-même.
Mais c'est une relation, ça ?
Ah, tout à fait. L'être de raison est une relation. L'être de raison est une relation. C'est une relation. Une relation de raison. Oui. Tout être est une relation. Oui. Donc quand je dis être de raison, c'est la relation qui est impliquée dedans. Une relation de raison. Pas la relation réelle. C'est la relation que l'intelligence humaine crée. Vous voyez ? Parce que l'universel, vous devenez animal. Animal est un concept universel. Hein, où le mot animal est un mot universel. Il y a une unité. Animal a une certaine unité et il contient une multiplicité. Donc il est dans le multiple. Il est vers le multiple. Vous pouvez dire Pierre est un animal. La petite bête du bon Dieu est un animal. Ce moustique qui m'a assommé pendant toute la nuit est un animal. Oui. Alors, il y a des animaux qui sont très doux et des animaux qui piquent. Les animaux très doux, ça vous met dans la paix. Et les animaux qui piquent éveillent votre irascible. Mais c'est toujours un animal. Et au point de vue logique, je n'étudie pas la réaction de l'animal sur moi en tant qu'il me pique. Ça, c'est psychologique. Il y a des animaux que je n'aime pas, des animaux auxquels c'est sympathique. Il y a des gens qui aiment les moustiques. Est d'ordre logique. existe dans certaines communautés, mais pas ici encore. Sentis-nous. Un petit tonneau qu'on roule parce qu'il est trop lourd à porter. Pas accidentel, ça, parce que s'il maigrit avec le carême, vous voyez, il n'a rien perdu de sa réalité. Mais l'accident, vous savez, c'est les charismatiques, ça, de dans le Texas. Chose extraordinaire, parce que ça me fait toujours penser à 110 kilos. C'est une chose que je n'ai pas vécue, mais que quelqu'un que je connais a vécu. Des charismatiques, à la fois catholiques et protestants. Alors quelqu'un s'élève en disant « Je sens que le Seigneur va me donner la grâce de guérir tout le monde. » Tous ceux qui sont malades dans l'assemblée. Alors il y a eu une procession. Tous les malades. Et le dernier, c'est un petit tonneau. Énorme. Il souffrait d'obésité. Alors, chaque fois qu'on s'approchait, elle était dans le cœur. Elle a posé les mains. Le malade tombait et se relevait guéri. Alors, tout le monde regardait le dernier. Alors, ça a avancé lentement. Il est arrivé, il est tombé par terre, il a maigri de 20 kilos. Alors celui qui assiste m'a dit, mais comment ça s'explique? Ah, ça s'explique pas. Il a maigri de 20 kilos. Est-ce un prodige? Est-ce un miracle? C'est la question qu'on me posait. Alors j'ai dit, je peux pas répondre parce que je l'ai pas vu. Si je l'avais vu, j'aurais tout de suite vu. C'était un prodige ou un miracle. C'était au Texas. Et le Saint-Esprit parle d'une façon particulière au Texas. Charismatique. Et authentique, c'est vrai. C'est celui qui a... Il l'a vu, c'est pas dans le... C'est pas passé. Il a vu ça, il a posé la question. Puisque vous êtes théologien, dites-moi si c'est un miracle ou un prodige. Est-ce que c'est l'action de Dieu ou l'action du démon? Authentiquement, il a perdu 20 kilos. J'ai demandé si la graisse avait fondu. C'est extraordinaire. Alors vous voyez, quand on va, c'est l'accident. Perdre 20 kilos, c'est accidentel. Évidemment, c'est une délivrance, mais c'est un accident. Bon, ça vous fait comprendre ce que c'est que l'accident. Quantitatif. Bon, alors, les cinq prédicats. C'est très très important, la différence des cinq prédicables et des prédicaments. Les prédicaments ne sont pas au sens strict de la logique. Les prédicaments, c'est l'aspect qui conduit à la philosophie. Mais c'est descriptif. Tandis que les prédicables, c'est pas du tout descriptible. Vous pouvez pas vous imaginer ce que c'est. C'est un être de raison. Que vous portez en vous. Vous voyez, animal. Vous savez bien ce que c'est qu'animal. Vous avez pensé de temps en temps à animal. Vous avez pensé de temps en temps à raisonnable, rationnel. Raisonnable. L'homme. La propriété et l'accident. Donc, l'appréhension, c'est quelque chose qui atteint quelque chose de simple. L'univers, un terme simple, un concept simple. Oui, c'est aussi bien le concept que le mot. Alors, vous avez ensuite la logique du jugement. C'est le point de vue du prédicable en acte. Pierre est un animal. Raisonnable. L'attribution, c'est raisonnement, cherchez à comprendre les liens que vous posez. Si il fait beau aujourd'hui, demain, il pleuvra. S'il pleut aujourd'hui, demain, vous aurez du soleil. Vous établissez une constante. Un lien comme ça qui n'est pas absolument nécessaire. Mais un lien, si. Si PQ, comme on dit. Mais s'il pleut, ben, la conséquence. Ou bien vous avez un raisonnement, un syllogisme. Tout homme est menteur, or Pierre est un homme, donc Pierre est menteur. Tout homme est menteur, c'est un dit dans l'écriture. Vous ne pouvez pas nier. Tout homme est menteur. Donc Pierre peut mentir. Oui, quand vous dites tout homme est menteur, or Pierre est un homme, tout ça c'est très juste. Et vous concluez donc Pierre est menteur. Vous voyez le raisonnement, hein, ce qui est tout à fait juste. En réalité, tout homme peut mentir. Or Pierre est un homme, donc Pierre peut mentir. Parce que ça ne veut pas dire qu'il est menteur. On est en acte. Donc tous les raisonnements, l'induction, la déduction, les deux grands raisonnements, l'induction, la théorie, la déduction dans un domaine contingent, la déduction dans un domaine nécessaire, la démonstration. Et la déduction dans un domaine opinable, donc qui n'est pas nécessaire. Vous avez la dialectique dans le langage d'Aristote. Et puis vous avez l'induction. L'induction est un raisonnement, mais un raisonnement de découverte. Et l'autre, un raisonnement d'exploitation. Vous exploitez tout ce qui est contenu dans un principe. Et voyez tout ce qui est contenu. Oui, la logique est une chose extrêmement précise, importante, pour que le langage soit de plus en plus précis. C'est un art qui vient aider la connaissance. C'est un art. Et en même temps, c'est une science. Il faut savoir ce que c'est que l'être de raison. Il faut savoir ce que c'est que l'universel. Il faut comprendre tout ce qui est impliqué dans l'universel. L'universel univoque, l'universel analogique. Et dans ses attributions, on voit tout de suite. Donc vous voyez, c'est un domaine très vaste, la logique. Il faudrait pouvoir l'enseigner. Avoir un petit cours de logique, c'est nécessaire. On n'a jamais le temps. Mais quand les professeurs se multiplieront, il y aura un cours de logique nécessaire. C'est nécessaire de savoir ce que c'est que la logique et de l'appliquer. La critique, alors, attitude réflexive sur mes connaissances. Je critique toutes mes connaissances philosophiques. Alors vous comprenez que cette attitude réflexive ne pourra se faire parfaitement que lorsque j'aurai abouti un regard de sagesse et que j'aurai la connaissance des différents jugements de sagesse que je peux poser. Et j'essaie de comprendre l'ordre de mes connaissances, le développement de mes connaissances. Pourquoi toute connaissance humaine implique un ordre génétique et un ordre de nature? Pourquoi toutes les connaissances humaines impliquent ça? De l'imparfait vers le parfait. À cause du devenir. Toutes les connaissances humaines impliquent ça.